À l'occasion de la sortie du rapport annuel d'Amnesty International, Radio Éthique s'est rendue à la maison d'Amnesty de Nice pour en savoir plus. Rencontre avec...
Colette Fèvre, je suis conseillère nationale d'Amnesty International. J'ai été secrétaire de groupe du groupe 231 de Nice pendant 5 ans. Et je suis maintenant membre de groupe et je suis relais peine de mort de mon groupe. Et également, nous travaillons sur le Mexique, la Colombie et quelques pays d'Afrique subtropicale comme le Soudan, avec tout ce qu'il y a eu de terrible au Darfour.
Bien, moi, je suis Jacques-Noël Boutefeu-Leclerc. Je suis à Amnesty depuis 10 ans. Pendant 6 ans, j'étais le responsable de la commission entreprise, dans la seule perspective de rencontrer les entreprises en leur disant « Alors, vous, entreprise, que faites-vous des droits humains? Comment les traitez-vous » Et depuis mon déménagement sur la Côte d'Azur, j'ai rejoint le groupe de Cagnes-Vence, dont je suis secrétaire adjoint, et par ailleurs, au niveau du département des Alpes-Maritimes, avec mon amie Colette, je suis le relais média avec la responsabilité d'essayer de mieux possible faire connaître les formes d'action, d'intervention, les points de vue que nous pouvons avoir.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs la spécificité d'Amnesty ?
Alors, Amnesty International est une organisation qui aura, au début de l'année prochaine, 50 ans d'existence, 40 ans pour la France, qui est prix Nobel de la paix, qui en France est reconnue d'utilité publique, qui est agréée par l'éducation nationale pour l'enseignement des droits humains dans les lycées, les collèges, les universités et même les écoles primaires. Nous sommes en France 23 000 membres et sympathisants qui militons et qui utilisons toute notre foi, notre énergie, notre savoir-faire pour faire respecter les droits humains dans le monde. Et nous utilisons une arme très pacifique qui est le stylo et la souris d'ordinateur pour faire connaître et lutter contre ces exactions.
Et les enquêtes de terrain aussi.
Tout à fait. Alors, les enquêtes de terrain ne sont pas faites par les sections nationales, qui aident bien évidemment, mais elles sont faites à l'international à partir de spécialistes qu'on appelle des chercheurs, qui examinent les plaintes, l'origine des plaintes, qui se mettent en relation dans les États d'où proviennent les plaintes avec des juristes, des avocats, des médecins, la famille, les amis, etc., qui analysent et qui recoupent et qui font un travail de fourmi autour de cas de personnes. Nous nous occupons beaucoup de cas de personnes et nous parlons également des grands problèmes qui peuvent surgir, par exemple la mortalité maternelle en Afrique ou les pollutions dramatiques sur la santé humaine et sur le mode de vie des humains dans des régions comme le Nigeria, par exemple.
Alors, grâce à la plume de ce stylo, est-ce que vous pouvez retracer quelques exemples de succès en termes de campagnes que vous avez menées pour les droits humains ?
Les campagnes sont toujours très importantes. Ce sont des actions à longue durée et d'intensité variable. Tandis que les actions urgentes sont de très courtes périodes, un mois et demi, et de très forte intensité et mondiale. Donc, en matière d'action urgente, nous avons très régulièrement des succès. Par exemple, nous avons travaillé pour Troy Davis. Troy Davis, c'est un Américain, un jeune Américain qui a témoigné sur un crime qui a été considéré comme le criminel alors qu'il ne l'était pas et qui a toujours nié être l'auteur du crime. L'État dans lequel s'est passée la chose était la Géorgie, qui est un État criminogène, et cet homme a été emprisonné, torturé dramatiquement, et il était dans les couloirs de la mort pendant 15 ans. Et Amnesty International et d'autres organisations, mais à l'initiative d'Amnesty International, nous avons fait un lobbying extraordinaire sur lui. Il aurait dû mourir il y a 3 ans et il est toujours en vie. Et actuellement, la Cour suprême a réexaminé, parce qu'il était examiné par la Géorgie, puisque les États-Unis sont une fédération d'États. Donc la Cour suprême a repris tous les arguments, et actuellement, son procès est toujours en cours. Et on espère bien, et nous continuons à travailler pour lui. Voilà, c'est un exemple remarquable. Mais il y en a plein d'autres.
Alors la justice internationale est au centre du rapport 2009 d'Amnesty International. Comment est construit ce rapport? Qu'est-ce qu'on y apprend?
Principalement, donc, ce rapport contient une vision, une analyse globale qui est faite par notre secrétaire général de la situation des droits humains à travers le monde et qui donne les tendances, en quelque sorte, et qui donne le côté des progrès, en particulier le nombre de pays qui ne pratiquent plus la peine de mort, qui est en perpétuel rétrécissement, ce nombre de pays. Après, le deuxième point qui est important dans ce rapport, c'est que sur 192 pays membres des Nations Unies, 159 pays sont analysés. On a investigué, enquêté dans ces pays et identifié et validé les violations des droits humains qui y sont commises. Et on a identifié éventuellement si les auteurs de ces actions avaient été poursuivis en justice et punis ou pas. Et on constate, pays par pays, que la condamnation des responsables est très aléatoire et qu'il y a des pays qui sont quasiment dans une situation d'impunité totale. Le troisième volet du rapport, c'est un côté un peu universitaire, je dirais, c'est de faire un tableau des différents textes internationaux qui constituent le droit international et de lister à travers ces textes quels sont les pays qui sont parties prenantes de ces textes, qui sont au moins parties prenantes ou qui ont ratifié ou qui est l'idéal pour nous de notre point de vue, qui ayant adopté, ayant ratifié, ont traduit dans le droit national les directives internationales de façon à rendre possible une justice internationale universelle. Donc tout lecteur du rapport peut avoir cette vision de l'état des droits humains à travers le monde et quand il est curieux d'un pays particulier, ben, il peut avoir la chance de trouver ce pays et de voir les éléments qui sont relatés.
Et quels sont les signes de progrès et les avancées que vous avez notées?
Dans les signes de progrès que nous avons notés, on peut parler de la régression de l'application de la peine de mort à travers le monde. On peut noter le nombre de pays qui sont devenus partie prenante du statut de Rome, du protocole international instituant la Cour pénale internationale. Et dans les avancées de la justice pénale internationale, c'est une première qui est arrivée en 2009, l'inculpation, la mise en examen d'un chef d'État en exercice, je veux nommer le président du Soudan, Omar al-Bashir, qui est en difficulté pour voyager dans un certain nombre de pays, à l'exception malheureusement de l'Afrique, où ses confrères africains ignorent le mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui au niveau international. Donc on a des progrès, on a le commerce des armes, qui est également un aspect important. On est en train de se civiliser un petit peu en régulant, de façon un peu contraignante, le commerce des armes. Et là, sur ce point, on peut quand même souligner que la France, pour une fois, n'est pas en retard.
Je me souviens très bien quand on a commencé la campagne « Luttons contre les armes ». C'était en 2004. On devait prendre 1 million de visages avec les doigts croisés pour faire non à la gâchette. Eh bien, on a réuni notre million d'images et on les a remis à l'ONU. Et ça a été une manifestation très importante, évidemment. Et malgré tout, actuellement, ce projet de traité international contre le commerce des armes, c'est une perspective d'amélioration parce qu'il n'est pas encore créé, il n'est pas encore écrit ce traité, il n'est pas encore signé, ratifié. Mais j'espère qu'en 2012, puisque c'est le projet, il y aura des progrès importants.
Par rapport aux victimes de droits, de gens qui sont discriminés, de gens qui sont condamnés, voire même exécutés, le Maroc actuellement réprime de façon très dure les homosexuels. Ça nécessite de notre part d'agir, d'interagir, comme ça nous nécessite de signaler le progrès qui est accompli en Inde, où effectivement les homosexuels étaient maltraités traditionnellement par la société, et la Cour suprême indienne a mis en place des dispositifs juridiques qui permettent à ces personnes d'avoir leurs droits mieux protégés. Maintenant, un homosexuel discriminé en Inde, il peut, avec difficulté probablement, mais il peut accéder à un système de justice et avoir une plainte qui soit examinée, qui soit entendue. Et puis, le plus dramatique pour nous dans ce domaine-là, que des êtres humains puissent être jugés, condamnés à mort et exécutés au simple motif de l'homosexualité est quelque chose qui est absolument révoltant.
À un niveau plus local, pour en dialoguer, il y a un espace à Nice qui va ouvrir ses portes.
Tout à fait. Madame Van Mol est relais LGBT pour le secteur des Alpes-Maritimes, d'une part, et d'autre part, il y a un centre LGBT avec lequel nous travaillons, qui regroupe un collectif d'associations. Il y a une nouvelle maison, en quelque sorte, un centre, si vous voulez, qui sera rue de Roquebillière, et donc nous travaillons de pair. Par exemple, nous participons à la Pink Parade à Nice, et c'est un domaine de respect de la personne, qui est libre de sa sexualité tout de même.
Pour aller plus loin sur ces vastes thèmes, comment se procurer le rapport ?
Le rapport vaut 15 euros.
On peut le trouver donc dans les relais locaux d'Amnesty International.
On peut le trouver à la maison d'Amnesty International à Nice, 36 rue Gioffredo. On peut le commander également sur le catalogue d'Amnesty France. Mais c'est bien si on vient à la maison d'Amnesty faire ses courses. Au moment de Noël, nous avons des tas de petits cadeaux sympathiques et ça nous fait vivre.